Je vais vous faire travailler un peu dur aujourd'hui, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Alors si vous voyez quelques équations, il n'y en aura pas beaucoup, je les dirai en mots. Donc vous ne regardez pas, hein, ceux qui ne veulent pas, vous n'avez pas besoin de les regarder si vous ne voulez pas les regarder, parce que j'expliquerai en termes très intuitifs ce que ça veut dire, voilà. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais parler des incitations individuelles à innover. Comment on peut inciter un agent à s'engager dans des activités innovantes. Voilà. Donc, d'un point de vue, disons, de l'entreprise, ou disons, comment un manager d'entreprise, après je parlerai des gouvernements, comment on peut inciter à l'innovation. Donc, en fait, si vous voulez, un point de départ, c'est que les activités de recherche ont souvent lieu au sein d'une entreprise. Alors, c'est vrai que la recherche fondamentale se fait souvent dans les universités ou les laboratoires indépendants, mais au sein d'une entreprise. Et donc, soit vous êtes en contrat comme chercheur avec un employeur dans la même entreprise et dans une entreprise où il y a également des activités de production. Donc là, on dit que c'est une structure intégrée. Ou bien vous êtes un chercheur indépendant, ou vous êtes dans une firme qui est un laboratoire, qui traite alors avec une firme qui, elle, a des activités de production, et donc à ce moment-là, c'est des accords contractuels entre partenaires indépendants, d'accord ? Mais à chaque fois, c'est quand même des contrats qui régissent les relations entre, d'un côté, celui qui fait la recherche, qui produit l'innovation, et celui qui est l'utilisateur de l'innovation, ou le financier de l'innovation. Et donc, c'est un peu ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. D'accord ? Donc, les questions que je vais me poser, c'est comment encourager et récompenser les performances de recherche, d'accord ? Si je suis un employeur qui est un employé qui est chercheur, comment je peux récompenser, encourager, voilà. Ou bien, s'il y a des contrats entre indépendants, qu'est-ce qui fait que le contrat ne va pas léser trop la partie recherche et faire que donc il y ait de l'innovation ? La question que je me poserai ensuite, c'est est-ce que c'est mieux d'avoir une structure intégrée, c'est-à-dire d'avoir la recherche dans la même entreprise que la production, ou est-ce que c'est mieux d'avoir les activités de recherche indépendantes de la production dans deux firmes différentes, d'accord, ou bien l'université et l'entreprise, voilà. Donc ça, c'est toute la question de un peu les droits de contrôle et l'intégration verticale ou pas dans la recherche. Le troisième type de question que je me poserais, c'est est-ce qu'il faut des incitations ? J'ai encore là, j'ai oublié des tout de suite, ça me saute aux yeux après là, les accords là qui sont pas bien là. Faut-il des incitations salariales qui répondent fortement à la performance ? C'est-à-dire est-ce que je dois quand j'écris un contrat pour un chercheur, est-ce que je dois le punir si la recherche ne réussit pas et le récompenser très fort si elle réussit ? Ou est-ce que je dois, au contraire, mettre les chercheurs sous des contrats où ils gagnent la même chose, que ça marche ou que ça ne marche pas ? Voilà, par exemple. Donc, dans des contrats qui répondent beaucoup à la performance, en anglais, le terme, c'est « high-powered incentives », des incitations qui répondent avec « high-powered ». Et puis, quand on a des salaires qui sont assez fixes et qui ne répondent pas directement, au succès ou au moindre succès de la recherche ou de l'activité, on appelle ça des « low-powered incentives ». Donc, on veut savoir un peu quelle forme elles doivent avoir, ces incitations salariales, quand vous employez un chercheur. Est-ce que ça doit être la même chose que quand vous employez quelqu'un qui fait de la production ? D'accord ? La question, c'est que inciter, on peut dire, ben, finalement, l'innovation, c'est comme n'importe quoi, quoi. Finalement, pourquoi vous pourriez dire innovation ? Vous pourriez dire j'emploie quelqu'un pour produire, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'innovation ? Et en fait, si vous voulez, qu'est-ce qui est différent avec une idée nouvelle ou un produit nouveau ou un procédé nouveau ? C'est ça l'innovation, hein, c'est une nouvelle façon de faire les choses, un nouveau procédé, un nouveau produit. C'est que d'abord, l'investissement en recherche est difficilement mesurable. Vous voyez, c'est déjà et à vérifier en plus. C'est très difficile de dire, il a passé tant de temps à faire de la recherche. Je peux employer quelqu'un à faire de la recherche, mais c'est très difficile de dire, même si je fais semblant d'avoir un crayon devant un bout de papier, peut-être que je pense à autre chose et que je ne suis pas en train de faire de la recherche. C'est très difficile de vérifier si quelqu'un est vraiment en train de faire de la recherche ou pas. Si quelqu'un est sur une chaîne de montage, on voit tout de suite s'il est en train d'ajuster ou pas. Mais si quelqu'un fait de la recherche, ce n'est pas facile de savoir. J'avais un ami écrivain, il dit, je fais, comment il disait, je ne fais jamais rien, ou c'était du sens, je fais, ça veut dire jamais je ne fais rien, quoi. Il pensait tout le temps, nous on pensait qu'il glandait, en fait il a écrit des superbes livres, parce qu'en fait il était tout le temps en train de penser à ses livres, mais on avait l'impression qu'il faisait rien du tout. Le chercheur c'est un peu pareil. C'est une activité difficilement vérifiable, donc ça rend très difficile de la rémunérer. L'output est incertain, si vous voulez, et on ne sait même pas toujours ce qu'on va trouver. Un chercheur, on ne sait même pas exactement la question qui va se poser. Quand on fait de la recherche, déjà, il faut trouver la question qu'on va se poser. Et puis, c'est très imprévisible où ça va vous mener, qu'est-ce que ça va donner. Peut-être que je ne vais pas, moi, directement trouver le produit final. Je vais peut-être trouver quelque chose qui va débloquer quelqu'un d'autre, qui ensuite va déboucher sur un produit. C'est très, très difficile de mesurer l'output de recherche, d'accord ? C'est très différent de la production. Ex ante, quand vous écrivez le contrat avec un chercheur, c'est très difficile de décrire les caractéristiques d'un nouveau produit ou d'un nouveau processus. Et ex poste, une fois que c'est fait, c'est très difficile pour vous d'amener un juge et de dire « il a rempli ce que j'avais dit dans le contrat » ou « il n'a pas rempli ce que j'ai dit dans le contrat ». Parce que c'est très dur de vérifier que telle chose a été faite ou telle chose n'a pas été faite. Donc tout ça rend, si vous voulez, le fait de contracter sur de la recherche très particulier par rapport à contracter sur d'autres choses que de la recherche. Voilà. Donc ça, je vais un petit peu vous mettre dans le bain petit à petit, hein. Alors évidemment, ça nous amène à nos amis qui ont eu le prix Nobel la semaine dernière, évidemment. On va parler d'eux à nouveau. On va parler de Bengt-Holmström et d'Oliver Hart. Bengt-Holmström, lui, qu'est-ce qui l'intéresse beaucoup ? Ce qui l'intéresse, c'est le contrat entre un employeur que lui appelle un principal, comme un principal d'établissement, je ne sais pas pourquoi on appelle ça principal en anglais, et un agent. L'agent, il fournit un effort. Et en gros, si j'avais une craie, ça serait génial. Mais est-ce que j'ai de la craie ? Est-ce qu'il y a de la craie ? Ah là là, c'est bien. Est-ce que j'ai de la craie ? Vous la voyez, la craie ? Je ne vois rien, moi. Vous la voyez ? Mais je ne vois rien. Non, il n'y a pas de... Vous voyez, vous ? Mais c'est terrible, je suis vraiment complètement... Je ne vois rien du tout. Non, non, c'est pas grave. Donc là, je suis un petit peu... Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de craie. Tant pis. J'aurais bien écrit un peu sur le tableau, mais est-ce qu'on peut m'aider à avoir de la craie ? Ah, il y arrive, d'accord. Merci. Voilà, ah, c'est gentil, voilà. Ah, il fallait le demander. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, en gros, si vous voulez, le monde de Holmström, c'est de dire, voilà, bon, j'écris ça sous forme d'une équation, mais essayez de comprendre ce que je dis. Ne vous braquez pas sur l'équation. Je produis quelque chose, ça, c'est ce que je produis, et ce que je produis est le résultat d'un effort, et il y a un bruit autour. Ça, c'est un bruit, et ça, c'est effort. C'est-à-dire qu'en gros, votre production, elle est le résultat de votre effort et de chance ou malchance, vous voyez, je veux dire. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours très, très bien... L'effort, il n'y a que moi qui l'observe, il n'y a que l'employé qui connaît son effort, l'employeur ne voit que ça. Et évidemment, l'employeur essaye d'inférer l'effort en observant la output. Mais comme il y a du bruit, évidemment, c'est une inférence imparfaite, d'accord ? On dit qu'il y a de l'aléa moral, voilà. Typiquement, ce que va faire... Le tout, c'est de trouver, de donner les bonnes incitations à l'agent de fournir de l'effort en ayant quand même un salaire qui est contingent à l'output. Vous voyez, je veux dire, quand même, si je sais que je peux me tromper en tant qu'employeur, mais en général, il y a quand même peu de chances que tu produises beaucoup en ayant fait peu d'efforts. Alors, je peux me tromper, mais j'aurais quand même, en moyenne, j'aurais raison. Donc, toute la question, c'est comment je structure ces contrats pour inciter les agents à faire de l'effort dans une situation où le principal, l'employeur, n'observe que le résultat, et alors que l'agent, il sait tout, évidemment, et que le résultat est simplement une déformation bruitée de l'effort, quoi. C'est l'effort plus un bruit, quoi. Et ça, c'est ce qui a, disons, obsédé Holmström. Voilà, Holmström, c'est beaucoup... Avant lui, il y avait un autre prix Nobel qui s'appelait James Merlis, qui avait eu aussi le prix Nobel mais Ohlström a trouvé une manière beaucoup plus simple de formuler ça que Merlis, et il l'a appliqué aux organisations. Voilà. Et cette, donc, si vous voulez, il y a tout le côté théorie des contrats et tout le côté les incitations. Donc, je vous emploie, vous travaillez pour moi. J'ai comme outil le salaire. Voilà. Et comment je structure le salaire en fonction de la performance pour vous amener à faire plus d'efforts. Voilà. Donc, ça, c'est la logique Ohlström. La logique Hart, c'est celle de dire les droits de contrôle. Je vous en avais parlé la dernière fois. C'est-à-dire de dire les contrats sont incomplets et donc vous ne pouvez pas décrire à l'avance toutes les contingences. Justement, je vous ai dit il y a un moment que les contrats de recherche, c'est très incomplet. Vous ne pouvez pas décrire à l'avance toutes les contingences où il y a des choses qu'on ne peut pas vérifier. Et donc, vous êtes obligé de dire, ben, au lieu de dire « prends telle action dans tel état de la nature, telle action dans tel autre état, telle action dans tel autre état », vous dites « non, je vais te donner les droits de contrôle ou m'octroyer les droits de contrôle et c'est moi qui déciderai ce qui doit être fait dans tel état ou dans tel autre état, dans telle situation ». Et ça, c'est la théorie du contrôle et la théorie des droits de propriété. Qui est celui qui décide pour l'autre? Qui est celui qui dit « tu fais ça ou tu fais ça ». Et ça, c'est. Tandis que si tu n'étais dans une situation de contrat complet, eh bien, le contrat lui-même dirait ce qu'il faut faire. Le contrat lui-même dirait s'il pleut, on fait ça, s'il fait beau, on fait ça, s'il neige, on fait ça. Et du coup, le contrôle n'aurait plus aucun rôle, puisque tout serait déterminé dans le contrat. Mais quand tu ne peux pas faire ça, tu as un rôle pour le contrôle. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est les deux outils de base dont je vais parler aujourd'hui, mais je les applique à l'innovation. Vous voyez, ça vient très bien, le timing, parce que j'avais prévu ça dans le cours, et c'est quand même génial qu'ils aient eu le prix Nobel il y a une semaine. Et que ça vient juste au moment où je vais parler d'eux dans le cours. C'est vraiment, on dirait que c'est un fait exprès. Voilà. Alors, je vais d'abord parler, un petit peu explorer les droits de contrôle et de propriété quand il s'agit de l'innovation. Et je vais, et c'est surtout un travail que j'ai fait avec Tirol, prix Nobel il y a 2 ans, et que nous avons fait en 94. Voilà, d'accord. Et ensuite, je parlerai des incitations monétaires. Donc, je vais faire d'abord du Hart, et après, je vais faire du Ohlström et d'autres, voilà. Et après, je parlerai d'incitations non monétaires, parce qu'il y a les incitations monétaires, mais il y a les incitations non monétaires qu'on peut vous donner. Même si on ne change pas le salaire, on peut décider qu'on vous garde, qu'on ne vous garde pas, qu'on a un contrat. Par exemple, dans les incitations non monétaires, par exemple, vous savez qu'aux États-Unis, dans les universités, eh bien, en général, comment ça marche? Quand vous venez de terminer votre doctorat, vous allez sur le job market, donc universitaire, et l'université, en général, vous embauche pour une période probatoire de 6 ans, Et après, elle décide si elle vous garde ou pas. Ça s'appelle le tenure track, la titularisation, le track de titularisation. Tenure, c'est titularisation. Et on décide au bout de 6 ans si vous êtes titularisé ou pas. Et après, une fois que vous êtes titularisé, vous êtes inamovible. Vous restez là tout le temps, vous voyez. Mais c'est un... Donc, on veut savoir, est-ce qu'il y a une raison pour avoir des contrats comme ça? Et je vais vous essayer de vous expliquer pourquoi ça peut être optimal, ça peut être une bonne chose d'avoir ce qu'on appelle un tenure track. Voilà, c'est-à-dire un truc où vous avez une période probatoire, et ensuite, passé cette période probatoire, on vous garde et on ne vous bouge plus, d'accord? Et pourquoi? Et on essaie de pousser pour ça dans l'université française, vous voyez, d'avoir des... On essaye de dire, ben, il faudrait se rapprocher du tenure track. Mais il n'y a jamais eu de théorie, vraiment, et là, je vais vous donner un peu une théorie de pourquoi on pourrait vouloir du tenure track, d'accord? Donc voilà, on aura de... Bon, est-ce que vous suivez toujours? Vous êtes... c'est compréhensible, ce que je raconte? Bon, c'est bien, parce que c'est pas évident, je vais vous faire travailler dur aujourd'hui, vous allez me détester, là. Je sens, et là, j'ai encore rien fait. Bon, le rôle de l'allocation des droits de propriété sur l'innovation. Donc, je vais déjà parler donc, de la partie art, si vous voulez. Donc, la question que je me pose, c'est pourquoi la recherche fondamentale est-elle conduite pour l'essentiel par des individus ou des institutions indépendants, alors que la recherche appliquée est davantage menée à l'intérieur d'entreprises intégrées? Donc, c'est intéressant. Pourquoi la recherche fondamentale est menée indépendante, alors que la recherche appliquée est menée dans des entreprises où la recherche et la production sont ensemble? Et ça, c'est un tableau qui vous montre, ça, c'est un tableau qui ne va pas au-delà de 46, mais en fait, il semble que de plus en plus de recherches, de chercheurs soient employés dans des entreprises. Donc, c'est intéressant qu'il y ait cette évolution-là. Alors, je ne sais pas si ça a été pareil depuis, dans la période récente. On dit que oui, que ça s'est continué. Mais en tout cas, on peut savoir, on a des statistiques qui vous disent l'évolution, eh bien, de quelle part de la recherche est faite dans des entreprises de manière indépendante ou bien intégrée avec des activités de production. Et on veut s'interroger un peu pourquoi. Est-ce qu'il y a une théorie qui vous dirait pourquoi pourquoi. Alors là, à nouveau, j'arrive au contrat incomplet. Je vous dis, voilà, la R&D résulte, disons, la R&D donne lieu à des nouveaux produits ou des nouveaux processus de production qu'il est souvent difficile de spécifier à l'avance. Les contrats de R&D sont donc typiquement incomplets, d'accord. Et donc, l'allocation des droits de contrôle devient importante, d'accord. Ça, c'est l'idée, c'est ce que je vais pousser ici, d'accord. Alors, dans le modèle, alors Grossman-Hart, comment ils ont, donc Hart a fait ce modèle sur l'intégration verticale en 86, et si j'écris là, est-ce qu'on me voit de là-bas ou on ne voit pas? On arrive à voir, ça marche? D'accord. Donc le modèle Grossman-Hart, ça marche comme ça, si vous voulez, juste que vous ayez un peu une idée, mais tout ça, il n'y aura pas de Grossman-Hart. C'est les coûts et bénéfices de l'intégration verticale. C'est un article, c'est quand même cet article de base qui donne le prix Nobel Art. Alors, pourquoi Grossman n'est pas dedans, ça c'est une autre histoire, je vous dirai plus tard. Pourquoi il n'est pas lauréat, lui. Je dirais initialement, vous avez la période de contrat, donc on écrit le contrat ici, et le contrat est incomplet. Ensuite, après que le contrat est fourni, il y a les efforts ou les investissements, et on suppose qu'ils ne sont pas vérifiables, on ne peut pas contracter sur eux à l'avance. Et ensuite, il y a la production, si vous voulez. Il y a l'effort qui produit. D'accord. Donc là, c'est les A, hein, si vous voulez. Hein. Et là, c'est les Y. Quoi. Et donc, l'idée, c'est de dire, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois, et ensuite, il y a la distribution des profits. Et la distribution des profits, elle va dépendre de qui est propriétaire, vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, je vais montrer comment ça marche. C'est-à-dire que le contrat initial, il va allouer des droits de propriété. Il va dire qui est le boss. Allocation de droits de propriété. Et ça va devenir très concret dans pas longtemps. Okay. Donc j'alloue des droits de propriété. Les droits de propriété vont déterminer la distribution des profits. Parce que si, par exemple, vous travaillez pour moi, ça, et que c'est moi qui suis le boss, j'ai quand même beaucoup de pouvoir de marchandage et je peux avoir beaucoup de profits. Si, par exemple, vous travaillez indépendamment de moi, vous aurez certainement une part plus grande des profits. Donc, si vous voulez, la manière dont on alloue les droits de propriété initialement vont déterminer comment le profit généré est distribué entre les parties. Et alors, la logique du modèle, c'est la suivante. Pour chaque allocation de droits de propriété, les gens anticipent comment le profit généré va être distribué. Et en fonction de ça, ils vont déterminer combien d'efforts ils veulent mettre. Si par exemple, j'ai une structure de propriété qui, moi, ne me donne aucun droit, j'ai aucune incitation à travailler. Parce que tout ce qui va être produit va aller chez vous et pas chez moi. Vous comprenez? Et donc, la manière dont on fait, c'est qu'on dit pour chaque allocation de droits de propriété, on regarde la distribution des profits que ça veut dire. Ensuite, une fois qu'on sait ça, à ce stade-là, les agents déterminent combien ils veulent investir dans l'entreprise commune. Et ça va déterminer la production et les profits en équilibre. Et donc, on va pouvoir comparer, si vous voulez, les différentes allocations de droits de propriété, de voir laquelle vous donne au total le plus de profits générés. Vous voyez, si par exemple je suis avec une personne, avec Simon par exemple qui est là, ben si moi j'ai tous les droits de propriété, moi je vais faire tout l'effort, sinon n'en fera aucun, et peut-être que mon effort est beaucoup plus important que celui de Simon. Ou bien si c'est Simon qui a les droits de propriété, c'est lui qui fera l'effort, et si on est non intégré, chacun fera un peu d'effort parce que chacun a une part du gâteau, si vous voulez, sur la valeur totale produite. Et donc, c'est comme ça. Et donc, on peut comparer, vous voyez, on peut comparer différentes allocations de droits de propriété. On peut dire, est-ce que c'est mieux que ce soit Simon qui dirige tout? Est-ce que c'est mieux que ce soit moi qui dirige tout? Ou est-ce que c'est mieux qu'on soit indépendant l'un de l'autre? Et on voit, et voilà, il y a un coût et un bénéfice à chaque chose. Le coût pour moi d'être propriétaire, c'est que Simon ne va pas travailler, moi je vais travailler. Le coût, vous voyez, si c'est Simon, ben le bénéfice c'est que Simon travaille, mais le coût c'est que moi je ne travaille pas. Et on compare les coûts et les bénéfices. Et c'est ça la théorie des coûts et des bénéfices d'intégrer de mon côté, d'intégrer du côté de Simon, ou d'avoir Simon et moi qui travaillons indépendamment l'un de l'autre. Vous suivez ce que je... Ça va, vous arrivez à suivre ça, mais c'est formidable, vous savez, ça c'est très important. Ça c'est le prix Nobel de Hart déjà, c'est pas mal. Hein, vous pouvez aller maintenant et dire, mais nous on sait pourquoi Hart a eu le prix Nobel. Voilà. Alors voilà, donc si vous voulez, c'est ce que j'ai mis là, la période initiale, signature du contrat, période intermédiaire, les agents investissent, ça c'est le E ici, vous voyez. Période 3, la production a lieu et ensuite les agents négocient le partage du gâteau, mais le pouvoir de marchandage des deux parties dépend de l'allocation des droits de contrôle. Et comme ça, on peut comparer les différentes allocations de droits de contrôle. D'accord ? C'est comme ça que... Alors maintenant, on va l'appliquer à l'innovation. Alors, donc, c'est ce que j'ai dit, la logique du modèle Grossman-Arp. Pour chaque allocation des droits de propriété, on calcule le partage du gâteau. On retourne à la période intermédiaire, anticipant le partage du gâteau. Chaque partie décide combien il veut investir. Ayant calculé ses investissements, on peut calculer le gâteau espéré. Voilà. Dépendant des efforts de chacun, on sait à peu près quelle sera la taille du gâteau. Et on peut alors comparer entre les différentes allocations de droits de propriété. Alors, je ne veux pas vous embêter longtemps avec ça. Je veux dire, maintenant, prenons, qu'est-ce que c'est à l'innovation ? L'innovation, on va supposer qu'il y a deux parties. Une partie, c'est une research unit, une unité de recherche. Et une partie, c'est le consommateur de l'innovation. Alors, le consommateur, ça peut être une entreprise qui commercialise l'innovation, ça peut être un consommateur de biens finaux ou un fournisseur d'inputs complémentaires, ou ça peut être le financier de l'innovation. Vous voyez, donc, vous travaillez, vous êtes un chercheur, ben vous travaillez ou avec... Et en général, on travaille avec plusieurs des fournisseurs, des financiers. Là, je simplifie à l'extrême en disant il y a deux parties, l'unité de recherche et le consommateur de l'innovation qui... Et ensemble, ils génèrent une valeur. Et la valeur, la probabilité de succès, elle dépend de l'effort de l'unité de recherche et elle dépend de l'effort du consommateur. D'accord ? Alors, ce qui va se passer, c'est que différentes structures de propriétés vont évidemment induire différents efforts pour du côté de l'unité de recherche et du côté du consommateur. Vous voyez ? Donc, alors je ne vais pas vous embêter avec les maths. En général, eh bien, ce qui est optimal, c'est de dire je maximise la probabilité de succès fois la valeur de l'innovation, moins le coût de l'effort de l'unité de recherche, moins le coût de l'effort du consommateur. Et ça donne lieu à disons, de manière optimale. Donc ça va vous donner, disons, ce qui est... Ça, c'est ce qui serait socialement optimal. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas générer ce qui est socialement optimal, parce que si je donne toute la propriété à l'unité de recherche, elle va faire ce qu'il faut, mais l'autre ne fera pas ce qu'il faut. Et si je donne toute la propriété de l'autre côté à l'unité de recherche, et ben lui, il va faire tout ce qu'il faut, mais l'autre ne fera pas ce qu'il faut. Donc, en général, disons, l'optimum, on ne peut pas l'atteindre. Voilà. Donc, je vais comparer deux gouvernances, le cas où c'est le consommateur qui possède l'innovation et le cas où c'est l'unité de recherche qui possède l'innovation. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, si c'est le consommateur qui possède l'innovation, et ben, l'unité de recherche, elle n'a aucune incitation à innover. Donc, elle mettra un effort zéro. Et tandis que l'autre est fort, donc ça va être ça le payoff, c'est-à-dire vous aurez une probabilité où l'unité de recherche a mis zéro, l'autre a mis la recherche qui était optimale, et fois V moins le coût de recherche, le coût d'effort du consommateur, puisqu'il n'y aura pas de coût d'effort de l'unité de recherche qui, elle, aura mis zéro. Donc vous aurez ça qui est évidemment inférieur à ce maximum. Donc voilà, ça c'est le problème si c'est le consommateur qui possède l'innovation. Qu'est-ce qui se passe maintenant si c'est si au contraire c'est non intégré? Supposons qu'on n'intègre pas et que le chercheur soit indépendant. Et bien à ce moment-là, chacun va avoir une part du gâteau. Supposons pour simplifier que chacun reçoit V sur 2, la moitié de la valeur de l'innovation en cas de succès de l'innovation. Et bien à ce moment-là, l'unité de recherche va faire un effort qui prend en compte qu'il aura V sur 2, l'effort optimal, et l'autre va faire un effort qui prend en compte qu'il obtient V sur 2. Et ça va être ce qui revient à l'utilité espérée qui revient à l'unité de recherche, ça c'est ce qui revient au consommateur. Et le problème c'est de dire je regarde ça plus ça et je compare à ça. Et j'essaie de voir lequel est le plus grand. Et ce qu'on peut montrer, c'est que ça dépend tout de l'importance relative des efforts. Supposons que moi, je suis l'unité de recherche et Simon est le consommateur. Tout dépend de l'importance de l'effort. Si l'importance de l'effort... Moi, je suis l'unité de recherche. Si l'importance de mon effort est très importante et celle de Simon ne l'est pas, eh ben, c'est le plus important, c'est que ce soit moi qui possède, c'est moi qui garde les droits de propriété, en tout cas sur ce que je fais. Et c'est pour ça que, typiquement, la recherche fondamentale est faite de manière indépendante. Parce que pour la recherche fondamentale, ce qui compte surtout, ce n'est pas l'effort du consommateur, c'est l'effort de l'unité de recherche. Hein ? Tandis que si vous êtes dans la recherche appliquée, vous êtes déjà tout près de la commercialisation, le grand E devient beaucoup plus important. Et plus le grand E devient important, plus c'est important de donner des droits de propriété au consommateur, qu'il soit donc le producteur du bien, etc. Et c'est pour ça qu'on observe effectivement que la recherche appliquée tend à être davantage intégrée à l'intérieur d'entreprises. Vous voyez, donc cette entreprise, c'est tout bête cette théorie, mais elle vous donne déjà un fait qu'on observe tous, c'est que la recherche fondamentale, vous la faites à l'université ou dans des labs, et la recherche intégrée, vous la faites dans des entreprises. Vous voyez, vous avez immédiatement, avec cette théorie, ça a l'air tout bête, mais elle vous donne immédiatement la prédiction que ce que vous observez en pratique. Voilà. Donc, si vous avez survécu jusqu'ici, c'est miraculeux, parce que je pensais que vous seriez déjà totalement... Voilà, mais j'espère l'avoir... Donc ça, c'est la chose. Alors, est-ce que l'allocation... Oui, je ne vais pas rentrer là-dedans. On peut regarder aussi des considérations dynamiques. Par exemple, on peut dire, ben voilà, c'est bien, par exemple, mettons même qu'on a un stade fondamental, c'est bien que j'ai les droits de propriété sur ma recherche. Mais d'un autre côté, il y a le problème que peut dire, ben, supposons que mon innovation mène à une autre innovation. Et le problème, si moi je garde mes droits de propriété en tant qu'unité de recherche, c'est que je peux avoir peur de donner même de l'information sur la première innovation à Simon, qui serait le consommateur, parce que j'ai peur que Simon utilise ça pour une deuxième innovation, pour me concurrencer sur une deuxième innovation. Si vous êtes dans un monde où il y a une première innovation qui mène à une deuxième, le problème que moi j'ai mon indépendance, c'est que je ne vais pas vouloir diffuser l'information à Simon. Parce que je me dis, oulala, je diffuse l'information à Simon sur la première innovation, il va venir me concurrencer sur la deuxième innovation. Et donc, de pas être intégré, c'est bon pour moi a priori, parce que je fais plus d'efforts, c'est bon pour la production de savoir de mon côté, mais c'est pas très bon pour ma diffusion de savoir vers Simon. Et donc, c'est très intéressant aussi, parce qu'on peut en fait utiliser ces considérations d'intégration verticale pour voir comment non seulement elles influent sur l'incitation à produire du savoir, mais également sur l'incitation à diffuser du savoir. Et donc ça, c'est quand même un truc très intéressant qu'il n'y avait pas avant avec la théorie, avant qu'on regarde l'innovation. Voilà, donc c'est quand même très intéressant. Et en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que donc, ne pas être intégré à Simon, que moi, je sois une unité de recherche indépendante, ça a un bon côté parce que ça m'incite à investir davantage en recherche-développement pour produire la première innovation. Mais le mauvais côté, c'est que ça peut me décourager à diffuser l'information sur cette première innovation parce que j'ai peur que Simon, le consommateur, l'utilise pour venir me concurrencer sur mes innovations futures. Et donc ça, il y a le côté dynamique qui vient à l'encontre de la considération statique. Voilà. Et donc ça, c'est une chose intéressante en soi. Voilà. Alors, il y a des choses, par exemple, je ne veux pas vous embêter, mais il y a tout un droit, un law and economics, comme disent les anglo-saxons, mais il y a tout un droit et économie des contrats de recherche. Par exemple, souvent, on observe, et ça, on le voit tout de suite avec cette théorie, pourquoi c'est vrai, souvent, dans les entreprises, vous avez un chercheur, j'ai failli tomber de l'eau là, sur lui, il ne fallait pas, je suis un chercheur qui travaille pour une boîte, et on me dit souvent, si il quitte la boîte, on dit, pendant 6 mois, tu peux travailler pour personne d'autre. Vous savez, il y a souvent des clauses comme ça. Ça s'appelle des trailer clauses, d'accord ? Et donc, tu n'as pas le droit de travailler indépendamment pour faire autre chose pendant un certain temps. Et bien, il y a une manière très simple de rationaliser ça. C'est de dire que, voilà, je suis un chercheur, je produis maintenant une innovation, mais je vais en produire d'autres dans le futur. Et ce qui se passe, c'est que plus ça va dans le futur, moins ça va utiliser l'input du consommateur. Et donc, à un moment donné, ça sera optimal que j'ai vraiment les droits de propriété sur mon innovation. Tandis que, même si je quitte la boîte, pendant un certain temps, quand même, les innovations qui viennent juste après celle-ci, il y aura quand même eu l'input du consommateur. Parce que, vous voyez, notre effort, il contribue pas seulement à produire les innovations courantes, mais des innovations futures. Mais plus elles sont loin dans le futur, moins l'apport du consommateur est important, et plus mon apport est important. Et on sait que quand mon apport devient suffisamment important, c'est optimal que ce soit moi qui ai les droits. Tandis qu'avant, c'est optimal que ce soit lui qui ait les droits. Donc, c'est pour ça que vous avez ces clauses qui disent typiquement, avant de quitter pendant un certain nombre de mois, tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez rien faire, ou ça appartient à votre employeur précédent. Parce que, en fait, même si vous n'êtes pas en train de travailler chez lui, l'input qu'il vous a fourni est quand même, on pense qu'il a été très important pour fournir les innovations futures. Et donc, c'est très intéressant parce que cette théorie vous permet de rationaliser ça et plein d'autres aspects du droit et de l'économie des contrats de recherche. Et c'est un domaine passionnant, le droit et l'économie des contrats de recherche. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais je veux simplement vous sensibiliser au fait que l'économie et le droit, c'est très relié l'un à l'autre. Voilà. Donc, je veux maintenant parler de l'évidence empirique. Il y a un grand spécialiste, d'ailleurs, du capital risque et d'autres choses, qui s'appelle Josh Lerner, qui est à Harvard Business School, et ils ont regardé l'industrie pharmaceutique, et ils ont testé la théorie à Guyon-Tirol, et ils ont été regarder le type de contrat. Et moi, ce que je disais, c'est que si vous avez un contrat sur de la recherche fondamentale, ça devrait être plutôt indépendant, fait de manière indépendante, pas intégré. Et si j'ai des contrats à des stades plus avancés, avancé, ça devrait être plutôt intégré, d'accord ? Et ils disent, c'est la technologie, voilà, et ce qu'ils disent, c'est, on peut regarder, parce que les contrats de biologie, je connais le stade auquel c'est, est-ce que c'est des stades avancés ou des stades préliminaires ? Je sais que c'est des endroits où il y a des besoins de financement importants et les pouvoirs de négociation jouent un rôle important. Et là, on regarde, vous voyez, on peut dire, voilà, là, je sais qu'il y a des contrats qui étaient au niveau de la découverte ou des contrats au niveau du développement préclinique ou bien des contrats plus avancés, disons, après, au moment où on vend on est à la vente des médicaments, etc. Et donc, si vous voulez, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent regarder les différents stades de la recherche. Est-ce que c'est le stade très fondamental ou le stade plus appliqué et de voir si c'est intégré ou pas intégré. Et en fait, la première chose qu'il montre, c'est que d'abord, la situation financière de la firme est importante. Plus l'unité de recherche a des capitaux, moins elle a besoin d'intégrer. Alors ça, c'est important, parce que si vous voulez, moi j'avais dit, il y avait l'effort relatif. Si mon effort est plus important que celui de Simon, c'est mieux que ce soit moi qui sois intégré. Mais ce n'est pas toujours le cas que je puisse le faire parce que mon financier, eh bien, il dirait, mais oui, mais tu auras peut-être le gâteau total généré sera plus gros, mais comment je sais que tu vas me le donner ? En général, ce que tu fais, c'est que tu le payes en avance. Mais si moi, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas compenser. Je ne peux pas compenser, même si c'était efficace que j'ai la propriété de l'innovation, je ne peux pas compenser mon financier pour le fait que j'ai ces droits de propriété. Il n'a pas la garantie que je vais le compenser. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai des problèmes de financement, même si ce n'est pas efficace que ce soit moi le propriétaire en tant qu'unité de recherche, eh bien souvent, ce qui se passe, c'est que la contrainte de financement fait que, de manière inefficace, c'est le consommateur qui va être propriétaire, bien que ça aurait été optimal que ce soit moi, parce que même si le fait que je sois propriétaire maximise le gâteau, lui, il ne me fait pas confiance que je vais lui donner sa part, et comme je ne peux rien lui donner d'avance, il va lui dire « non, c'est moi qui vais être le propriétaire ». Et c'est ce qu'on observe exactement, c'est que plus l'unité de recherche a des stades préliminaires, notamment, eh bien, elle a des capitaux propres déjà pour commencer, plus elle a de chances d'être elle-même propriétaire de la recherche, tandis que si même je suis à un stade préliminaire et que je n'ai pas d'argent du tout, eh bien, il y a plus de chances que ce soit le consommateur qui soit propriétaire. Et ça, il le vérifie sur ses contrats. Donc ça, c'est quand même intéressant. Voilà. Et ce qu'il montre aussi, c'est que moi, j'avais dit, dans les stades préliminaires, eh bien, ça devrait être plutôt la recherche fondamentale. Ça devrait être plutôt l'indépendance de l'unité de recherche. Et là, si vous voulez, on montre que même dans des stades préliminaires, souvent, c'est le financier qui possède ou le consommateur qui possède, parce qu'à nouveau, il y a la raison la plus vraisemblable, c'est qu'il y a ces contraintes, c'est que typiquement les unités de recherche n'ont pas de collatéral, n'ont pas de fonds propres, et donc elles doivent pouvoir se reposer sur le consommateur, même si ça aurait été optimal de laisser l'initiative à l'unité de recherche. Voyez, donc c'est très important, c'est que les contraintes de crédit, eh bien, elles distordent, elles font que ce n'est pas l'allocation optimale de droits de propriété qui est mise en œuvre, parce que, en fait, les contraintes de crédit viennent, en fait, vous voyez, se faire choc, vous voyez, et empêcher l'allocation optimale des droits de propriété. Voilà, donc je voulais juste un peu vous mettre un peu dans cette chose. Donc, l'incitation à l'innovation à travers l'attribution des droits de propriété, c'est mieux de faire, on montre que c'est optimal que la recherche fondamentale soit faite de manière indépendante et la recherche appliquée plus de manière intégrée, mais il y a importance des contraintes financières parce que, eh bien, même si c'est optimal de faire de manière non intégrée, eh bien, je peux ne pas être capable de compenser le partenaire pour la part du gâteau auquel il a droit. Et donc, c'est pour ça qu'on observe quand même une allocation fréquente des droits de propriété aux financiers ou à la partie qui a l'argent, et que la R&D est souvent intégrée plus qu'elle devrait l'être s'il n'y avait pas des considérations de contraintes de crédit. Voilà. Et enfin, j'ai rationalisé certains aspects du droit des contrats de recherche. Voilà, un petit peu, ça c'est un petit peu l'approche ART, si vous voulez, appliquée à l'innovation. Voilà, on peut faire beaucoup d'autres choses, mais ça vous donne déjà un peu une idée de ce qu'on peut faire avec l'approche ART. Alors, je me rends compte que j'ai fait à peine 18 minutes. J'ai l'impression que je vais continuer. Hein. Ça va ? Je vous ai mis là en 20 minutes, je pensais... Ah non, c'est 35, il est 35. Ça va. J'avais peur qu'il soit 20. Je me dis, zut, il est que 20. Et je me dis, mais on va quitter dans une heure, là. Même pas. Voilà. D'accord. Alors maintenant, je vais dire, j'ai regardé le côté ART. Donc, ART peut venir au comité Nobel et dire, voilà, moi, sur l'innovation, voilà ce qu'on peut dire à partir de mes travaux. Maintenant, on va demander à Holmström de venir parler. D'accord ? On va dire, toi, qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur ces histoires-là ? Mais il va dire, moi, c'est pas tellement les droits de propriété mon truc, ça, c'est pas, ça je laisse ça à mon ami Oliver. Ils sont toujours d'ailleurs en train de discuter ensemble. C'est toujours très amusant de les voir dialoguer et sortir des vannes. Ils adorent blaguer ensemble, les deux. Je les connais vraiment depuis longtemps. Incitation monétaire à l'innovation. Donc, les questions que je vais me poser là, c'est en quoi les incitations monétaires à l'innovation diffèrent-elles des incitations monétaires à la production ? Et quels sont les outils d'incitation monétaire à l'innovation ? Alors, si vous tenez suffisamment de temps pour être là, vous allez sauter de votre chaise, parce que je vais dire des choses qui vont vous choquer horriblement, vous allez trouver épouvantable. Donc voilà. Donc, je dois à la fois m'assurer que vous allez, voilà, que vous allez tenir jusque-là, et ensuite que quand vous tenez jusque-là, je ne vous donne pas une attaque cardiaque quand je parle de ces choses-là. D'accord ? Donc, les articles importants, on retrouve notre ami Holmström, évidemment, avec un autre qui, lui, attend le prix Nobel également, qui s'appelle Milgrom, et je pense que lui, il aura le prix Nobel dans les 3 ans. Mais bon, je me trompe parfois, hein. Cette fois-ci, pas, mais la prochaine fois, je peux me tromper. Je pense que dans 2 ans, il a de bonnes chances, ou dans 4 ans. Et puis, il y a Manso, qui est un jeune. Il était jeune maintenant. Quand je dis les jeunes, c'est plus jeune que moi, donc maintenant, ça ne veut plus rien dire. Je n'ai plus d'âge, mais lui a étendu la logique de leur modèle. Et donc, eux, ils regardent l'idée de multitâche, et lui, ils regardent l'innovation comme processus d'exploration. Alors, lui est à la suite d'eux, si vous voulez. Il prend la suite de ce qu'eux ont fait. Donc, je vais commencer par Holmström, Milgrom. Donc, Holmström, c'est le même que celui qui regarde ça. Mais seulement, il dit, voilà, je peux faire, au lieu de prendre une action possible, je peux regarder 2 actions. C'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est que mon Y, c'est A1 plus A2 plus epsilon 1 plus epsilon 2. C'est qu'en gros, il y a 2 activités. Il y a du bruit sur l'une, il y a du bruit sur l'autre. Et le total, voilà, et ce que je donne à la firme, c'est l'addition des deux. Là, je fais de manière très simple, parce que les 2 tâches se combinent pas forcément d'une manière additive, comme ça, peut-être d'une manière plus compliquée. Mais je dis, en gros, il y a le A1 plus epsilon 1, il y a le A2 plus epsilon 2, et puis voilà. Et le total, ça fait la somme des deux. Et il y a 2 tâches. Et mon problème, c'est que j'ai Simon qui travaille pour Simon. Moi, je ne prends pas François-Xavier cette fois-ci. François-Xavier travaille pour moi. Et François-Xavier, je lui dis, il y a 2 tâches à faire. Et le problème, c'est d'allouer les... Je veux être sûr que François-Xavier va allouer son effort correctement entre la tâche 1 et la tâche 2. Mais le problème, c'est qu'il y a une tâche qui est mesurée avec beaucoup de précision. Le epsilon 1 est petit. Mais par contre, celle-là, elle est mesurée avec beaucoup de bruit. Eh bien, typiquement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il va, typiquement parce qu'il a peur du bruit et qu'il ne veut pas avoir beaucoup de risques sur son salaire. Hein, si j'ai un salaire qui dépend de la performance, je ne vais pas choisir forcément d'aller sur l'activité qui est très bruitée, parce que du coup, c'est comme monter sur une montagne russe, vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce que va faire mon ami, hein, si epsilon 1... Si la variance de epsilon 1, ce que j'appelle la variance, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de bruit, si la variance est très petite par rapport à la variance de epsilon 2, c'est-à-dire si le bruit epsilon 1 est tout petit et l'autre est un énorme bruit qui fluctue beaucoup, typiquement, qu'est-ce que va faire François-Xavier ? Eh bien, François-Xavier, il va choisir l'activité A1 parce qu'il va se dire, celle-là, c'est du sûr, je suis en contrôle, je sais ce que je fais, et il va délaisser l'activité sur laquelle il y a beaucoup de bruit. Ben, si vous voulez maintenant, supposons que A1 et A2, ça a l'air d'être très abstrait. A1, c'est la production, et A2, c'est la recherche. Et ben, typiquement, la production, c'est assez prévisible. La recherche, c'est très imprévisible. Qu'est-ce que vous allez faire ? Si je vous donne des incitations sur la recherche qui sont très fluctuantes, eh bien, vous allez tenter. Si je vous récompense, disons, uniquement à la performance totale ou à la performance sur différentes tâches, vous allez choisir eh bien, celle où le bruit est le plus petit, c'est-à-dire la tâche qui est le mieux mesurée, où l'observation d'output est le meilleur reflet de l'effort. Voyez, vous n'allez pas prendre l'activité très aléatoire parce que vous avez trop peur, vous avez fait face à trop de risques. Voyez ce que je veux dire ? Donc, s'il y a une activité... Donc la rétribution liée à la performance n'est pas toujours adaptée parce qu'elle incite l'agent, en l'occurrence François-Xavier, à se concentrer sur les tâches bien mesurées ou moins aléatoires, c'est-à-dire celles où le epsilon 1 a une petite variance, celles où, mettons, le cas extrême, c'est quand epsilon 1 est 0. À ce moment-là, je mesure parfaitement ce qui se passe sur la première tâche. Donc c'est le problème d'allocation d'efforts entre tâches routinières et recherches qui explique d'ailleurs que les grandes firmes, bien qu'elles emploient des chercheurs, soient moins innovantes que les petites. Si vous voulez, ça, c'est un peu la vision de Holmström. Il dit, quel est le problème de l'innovation dans les grandes boîtes? Ben, un des problèmes, c'est que dans les grandes boîtes, eh bien, on fait à la fois de la recherche et de la production. Et on mélange les deux. Et donc, c'est très tentant de faire du routinier, parce que c'est beaucoup plus facile de faire de la routine dans des grandes boîtes que dans des petites. Et donc, on va tendre à faire de la routine parce qu'on ne veut pas avoir de risques. Vous voyez, on a peur de se lancer dans des trucs aléatoires. Il vous dira deux choses. Il dira, c'est qu'on va vouloir typiquement une rétribution pour la recherche, pour justement que François-Xavier ne fasse pas que du routinier, mais fasse également de la recherche. Il faut que je puisse lui dire, si tu fais de la recherche, eh bien, je te donne un salaire qui est constant, par exemple, vous voyez, qui ne répond pas, même si tu rates. Et donc, il y a déjà cette idée que pour inciter à la recherche, je ne dois pas punir l'échec trop. Vous voyez, je veux dire, je dois avoir une indulgence à l'égard de l'échec. Voilà, ça c'est l'idée déjà qui commence à émerger. Vous voyez, si je veux être sûr que François-Xavier, que tout le monde ne va pas se ruer vers l'activité sûre et routinière, je dois dire, vous faites l'autre activité, eh bien, le risque est limité. Je vais, quoi qu'il arrive, même si vous ratez, je suis indulgent à votre égard. Et donc, on voit déjà cette idée-là. D'accord? Donc ça, c'est une chose, mais on va revoir cette idée un peu plus tout à l'heure. Donc, ça explique que les grandes innovations soient souvent faites par des petites entreprises, parce que typiquement, dans les grandes entreprises, eh bien, les gens vont vers le routinier, ou sinon, on tend à être plus routine, et moins dans les grandes innovations. Et ça explique pourquoi aussi le salaire des innovateurs est moins sensible à la performance immédiate. Et c'est une idée sur laquelle je reviens tout à l'heure, d'accord? Donc ça, c'est déjà la première idée qui commence à émerger déjà de cette idée de multitâche. C'est-à-dire qu'on va être sûr que tout l'effort n'est pas sur le routinier, et donc je tends à rendre la récompense sur l'innovation moins sensible au succès et à l'échec. Voilà. L'innovation... Alors maintenant vient cet autre auteur qui s'appelle Manzo. Et Manzo, ce qu'il dit, c'est que voilà, il y a deux tâches, mais en fait, il sophistique le modèle et il dit, il y a deux choses qu'on peut faire dans une entreprise. Une chose qu'on peut faire, c'est de l'exploitation. Je peux exploiter les choses. Ça, c'est de la routine. L'autre, c'est de l'exploration. Mais la différence, c'est qu'il fait ça en dynamique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'exploration, elle génère de l'information. C'est-à-dire que l'un, c'est pour dire, je fais un truc qui est sûr et qui ne me donne aucune information. Et l'autre, c'est de la recherche. Et la recherche, qu'est-ce qu'elle vous fait? Donc, il va plus dans ce que c'est que la recherche. La recherche, ça me permet de savoir, d'apprendre des choses. Et d'apprendre en particulier qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont pas bonnes. Mais si je n'essaye pas... si on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, en cassant des œufs, je vois si ça marche ou pas, quoi. Je vois si ça vaut le coup de poursuivre dans cette voie ou pas. Donc, il y a l'idée de dire où je continue la routine, où j'explore quelque chose, mais si j'explore, je vois tout de suite si je me casse la figure ou si ça vaut le coup de continuer. Et cette information est valable. Et en gros, il faut dire, voilà, quand est-ce que je veux encourager cette information? Et la recherche, c'était l'idée de l'exploration, vous voyez, par rapport à l'activité d'exploitation qui est l'activité routine. Ne regardez pas les équations. Supposons qu'il y ait deux périodes. La première période, donc vous prenez une action, vous apprenez si ça marche ou pas, s'il y a du succès ou pas, et sur la base du succès, eh bien, vous décidez de continuer. Alors, il y a deux actions possibles. Il y a l'action 1 qui est l'action routine, exploitation. Il y a l'action 2 qui est l'action exploration. Et ce qu'on voit, c'est que si je fais de l'exploration en première période et que j'ai eu du succès, eh bien, ça veut dire que la probabilité de succès sur cette action en deuxième période est plus grande que si j'avais fait l'activité routine. Vous voyez, je veux dire, je fais une exploration, elle marche, je sais que c'est super bien, j'y vais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée, quoi. Mais il se peut que je... Donc, s'il n'y avait pas d'exploration, je ne ferais que l'activité routine, qui donne une probabilité de succès plus grande. Mais, a priori, la probabilité de succès l'activité d'exploration est moins grande. Mais si j'ai un premier succès, alors je sais que l'activité d'exploration est bien, bien meilleure que l'activité routine. Et à ce moment-là, je continue l'activité d'exploration. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça fonctionne, voilà. Donc il y a deux choses que je peux faire. Ou je fais l'activité routine, l'exploitation en période 1, à ce moment-là, qu'elles réussissent ou pas, ça ne me donne aucune information, évidemment, sur ce que donnerait l'autre activité. Et donc, évidemment, comme je n'ai aucune nouvelle information, si j'ai déjà choisi l'activité routine en période 1, je continuerai de choisir l'activité routine en période 2. C'est ce qui se passe si je fais l'exploitation, d'accord ? Si je choisis, l'exploration, eh bien, l'exploration, il y a deux cas. Ou bien j'ai un succès en période 1, et à ce moment-là, je vais continuer sur l'activité 2, puisque je sais que conditionnellement à un succès en période 1, eh bien, je vais faire mieux avec l'activité exploratoire qu'avec l'activité routine. Je continue. Si j'apprends au contraire que j'ai un échec sur l'activité d'exploration, je vais me rabattre sur l'activité routine. Vous voyez, je veux dire, j'ai toujours la possibilité de me rabattre sur l'autre activité. Et c'est ça la valeur de l'information. C'est que j'ai toujours cette flexibilité ou de persévérer dans l'activité exploratoire ou de me rabattre sur l'activité routine. Et c'est ça qui va se passer. Et en fait, eh bien, ça a une valeur, cette information. Et on peut montrer que quand la valeur de cette information est suffisante, eh bien, ça vaut la peine d'aller dans l'activité exploratoire. Même si l'activité exploratoire, en moyenne, est moins bonne que l'autre, puisqu'elle génère cette information et que je vais apprendre si j'ai des possibilités, c'est comme chercheur d'or, j'apprends qu'il y a de l'or, ça vaut beaucoup. Peut-être qu'en moyenne, il y a une faible probabilité que j'ai de l'or, mais si j'apprends qu'il y a de l'or, la valeur de cette information est énorme, elle peut être suffisante pour que ça soit optimal, en fait, que j'aille dans l'exploration, vous voyez ? Donc, ça, c'est... Voilà. Alors maintenant, mettons ça dans une relation... donc si l'information acquise sur la méthode exploratoire est suffisante pour que l'espérance de succès si je fais l'exploration dépasse la probabilité de succès si je fais de la routine, eh bien, je choisirai l'activité d'exploration. Alors maintenant, la question, c'est de savoir que maintenant, c'est, là, j'ai regardé le cas d'un agent tout seul qui cherche tout seul quoi, qui prend tout pour lui. C'est un agent qui décide lui-même s'il explore ou s'il exploite. Mais maintenant, mettez ça dans une boîte, mettez ça dans une entreprise. Supposons que François-Xavier m'emploie et François-Xavier décide si je... Comment il va décider, comment il va m'inciter à faire de l'exploitation ou de l'exploration. François-Xavier va m'employer, il sera le principal, moi je serai l'agent, et moi j'ai trois possibilités. Je travaille maintenant pour François-Xavier, je suis un employé. D'abord, je peux décider que je ne fais rien, far niente, d'accord ? Ça, c'est une possibilité, on peut toujours rester chez soi, dormir, hein, c'est toujours... Voilà, ça c'est une possibilité. La deuxième chose, je peux choisir de faire la routine, l'activité d'exploitation. La troisième possibilité, c'est que je peux explorer. Et la question, c'est de savoir si François-Xavier veut que je fasse de l'exploitation, qu'est-ce qu'il va me donner comme incitation monétaire ? Et s'il veut que je fasse de l'exploration, qu'est-ce qu'il va me donner comme incitation monétaire ? D'accord ? Alors, regardons d'abord, supposons que d'abord, tout ce qu'il veut faire, c'est de m'encourager à simplement faire de l'exploitation plutôt que du far niente. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va faire un contrat typiquement qui me récompense à la performance, c'est-à-dire comme j'avais là, c'est-à-dire de dire, ben voilà, si tu fais rien, eh ben tu as plus de chances d'avoir une performance basse, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais te récompenser à la performance. Tout ce qu'il veut, c'est que je travaille, quoi. Donc s'il te dit, tu gagnes la même chose tout le temps, je ne vais rien faire. S'il te dit, tu gagnes plus quand tu as plus d'output, et tu sais que tu as plus de chances d'avoir plus d'output quand tu fais plus d'efforts, ben qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas donner un salaire qui répond beaucoup à la performance. Et donc, dans un monde comme ça, où simplement le choix, c'est entre la routine et entre la routine et le far niente, bah, il va faire un contrat, typiquement comme dans les modèles de base d'Holmström ou de Merlis, c'est-à-dire un contrat où tu récompenses l'effort très sensible à la performance. Voilà. Et donc, l'échec sera puni. Et donc, le succès sera récompensé, où qu'il arrive, dans un contrat comme ça. Je punis l'échec et je récompense le succès. Maintenant, supposons que François-Xavier veut m'inciter à l'exploration. Alors là, je sais qu'il y a un risque d'échec à court terme si j'explore. Donc, pour inciter à l'exploration, il faut que le contrat montre une indulgence si j'ai de l'échec en première période. C'est-à-dire qu'on veut m'encourager à faire de l'exploration, mais de façon à qu'on puisse apprendre si l'exploration est bonne ou mauvaise. Et si elle est mauvaise, on se rabat sur la routine. Si François-Xavier me disait, même si tu as un échec au début, je te tape dessus, enfin j'avais ça, il est adorable, je te prends tout ce que tu as, etc., je ne vais jamais vouloir faire de l'exploration. Mais s'il me dit, écoute, je ne regarde pas, si tu rates au début, ce n'est pas grave, ce qui compte c'est plus tard. Alors à ce moment-là, je serai encouragé à faire de l'exploration. Donc typiquement, ce que va faire François-Xavier, c'est qu'il va me dire, écoute, je te paye si tu fais de l'exploration, même si tu rates, je te donne ta chance, prends le temps. Et à ce moment-là, je vais explorer. Alors évidemment, il veut quand même m'encourager à faire ça plutôt que du farniente, et il va me dire, je vais évidemment te donner beaucoup d'argent si tu as du succès. Donc je vais te dire, ce que je vais faire, c'est que je vais être indulgent à l'égard si tu as un échec de court terme, et je vais être très généreux si tu as un succès de long terme. Et là, j'encourage vraiment la recherche exploratoire. Vous voyez ? Voilà. Et ça, c'est la clé. C'est-à-dire la clé de la recherche. Pour inciter à la recherche, il ne faut pas demander tout de suite, quoi. Il faut accepter qu'on rate dans le court terme. C'est un système éducatif et fait comme un peu nous. On était un peu éduqués chez nous trop que quand on faisait des fautes, moi, il y avait le bonnet d'âne dans ma jeunesse. Hein. Je ne sais pas s'il n'existe plus maintenant le bonnet d'âne. Hein. Mais ce n'était pas sympa le bonnet d'âne parce qu'on apprenait, on explorait justement. Et on disait, et je crois que c'est important d'avoir un système qui ne pénalise pas trop le succès, l'échec dans la phase d'exploration. Voilà. Donc, maintenant, on peut dire, bon, OK, on sait ce qu'il faut faire. En gros, je sais ce que doit faire François-Xavier. Il veut m'encourager à l'exploration. Eh bien, il va pas me pénaliser pour le court terme, mais il va m'encourager pour le long terme. Alors, c'est là, je sais que c'est des mots horribles à prononcer, mais dans la réalité, c'est des choses qui jouent un rôle. Eh bien, les stock options ont un rôle à jouer là-dessus, quoi. Je sais qu'il y a des domaines où on ne les veut pas, mais il y a des domaines où ils sont utiles. Les stock options, ça peut être utile pour inciter à des activités innovantes de long terme. Donc, c'est un des moyens, il y en a d'autres. Alors, on sait qu'on ne veut pas, dans certaines branches de la finance, il y a eu des abus énormes, mais en tout cas, ça vous dit qu'il y a un rôle. Ce n'est pas des outils qui sont entièrement inutiles. C'est des outils qui, dans des circonstances d'innovation, eh bien, ont leur justification. Et il y a eu des études qui ont montré que, eh bien, dans certains secteurs, en tout cas, ça a eu un rôle très, très positif. Il y a autre chose aussi pour d'y protéger contre failure, c'est les lois de faillite. Par exemple, sur les lois de faillite, il y a des manières, vous savez, quand il y a la faillite, vous avez des créditeurs, il y a des créditeurs par ordre de priorité, celui qui est arrivé en premier, il y a différentes classes de créditeurs, et puis après, il y a ceux qui ont des actions dans l'entreprise. Hein. Et en général, c'est les créditeurs, donc en général, les actionnaires payent d'abord, et puis ensuite, voilà, et enfin les choses, on respecte l'ordre des priorités. D'accord. Donc, il y a tout le débat aux États-Unis sur chapitre 7, chapitre 11. Il y a des gens, avant, il y avait, quand une entreprise aux États-Unis allait en faillite, qu'est-ce qui se passait? Elle était liquidée et on vendait en pièces détachées les machines, hein, et l'entreprise était liquidée. C'est-à-dire que... Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, et souvent, on peut aller en faillite pour de bonnes et de mauvaises raisons. On peut aller en faillite, enfin, bonne, mauvaise, toujours mauvais d'être en faillite. Mais on peut être en faillite parce qu'on a mal géré l'entreprise, on peut être en faillite parce que l'activité n'est plus rentable en elle-même, ou on peut aller en faillite simplement parce qu'on a eu la malchance. Il y a eu la crise et puis voilà, on se retrouve en faillite. La crise de 2008 a entraîné beaucoup de faillites, même de firmes qui étaient saines et bonnes. Donc la question, c'est comment vous réglez le droit des faillites? Et là aussi, il y a l'idée de dire, eh bien, on veut être indulgent. Si on veut être indulgent à l'égard d'un type qui prend des risques, eh bien, on va vouloir aller vers quelque chose qui protège le débiteur, voyez. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, ben, le chapitre 11, ça fait que quand l'entreprise va en faillite, elle n'est pas forcément liquidée et les créditeurs se mettent à table et discutent du futur de l'entreprise. Mais en tout cas, disons que c'est plus favorable aux débiteurs que le chapitre 7, où automatiquement, dès que la firme ne peut pas rembourser ses créditeurs, elle est liquidée, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, en tout cas, il y a tout un débat, il y a plusieurs débats sur le code de faillite optimal. Moi, j'ai participé à ces débats moi-même. J'ai été moi-même un adepte de règles qui étaient très dépendantes sur la priorité des créanciers. Mais il y a cette étude intéressante de ces deux économistes qui utilisent des données de pays, des comparaisons entre pays, pour montrer que les pays les mieux dotés de lois de faillite plus avantageuses pour le débiteur innovent davantage. Donc c'est intéressant. Il y a toute une étude à faire sur comment l'innovation est reliée, disons, au type de loi de faillite qu'on a. Comment on traite la faillite, comment on traite l'échec. Donc il y a tout un éclairage de l'innovation sur comment traiter l'échec. Et alors la loi de faillite, c'est un aspect, et il y a d'autres aspects de ça. Mais je veux justement le mentionner parce que, si vous voulez, c'est une question toute bête que j'ai posée, et vous voyez qu'elle aussi, on retourne au droit et à l'économie, là. Là, c'est la loi de faillite et le lien entre le droit et l'économie, et vous voyez que ça a des implications très importantes pour le droit et l'économie. Est-ce que, quand c'est des entreprises très innovantes, le droit et l'économie doit être la même? Est-ce qu'il faut repenser, disons par exemple, la législation de faillite à la lumière du fait que vous avez des activités plus innovantes, plus risquées, etc. Et donc ça, c'est toute une réflexion qu'il faut mener, qui est très balbutiante encore. Mais je vous donne juste un peu un élément. Il y a un autre élément, mais j'en parlerai la semaine prochaine, c'est le rôle des investisseurs institutionnels pour encourager l'innovation. J'en parlerai la prochaine fois. Mais il y a cette idée, je vous la mets déjà dans tête, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, c'était encore un exemple, mais je reviendrai là-dessus en détail la prochaine fois. J'avais dans l'idée que si vous aviez des investisseurs institutionnels, c'est les hedge funds ou les mutual funds, les fonds mutuels, dans les entreprises où les fonds mutuels avaient des grosses parts, je pensais que ça ne pousserait pas du tout à l'innovation. Je pensais que ces acteurs étaient des acteurs qui raisonnaient à très court terme et qui ne poussaient pas à l'innovation. Et en fait, les données sont venues contre ce que je pensais. Je me suis rendu compte que les entreprises où vous aviez des fonds mutuels et ce qu'on appelle plus généralement des investisseurs institutionnels, eh bien, elles innovent plus que les autres. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et une raison qu'on a vue, c'est que ça isolait, ça protégeait le manager de l'entreprise. Parce que, si vous voulez, dans les entreprises où il n'y a pas d'investisseurs institutionnels, c'est des actionnaires dispersés qui décident et eux jugent énormément à la performance immédiate. Donc, si quelqu'un prend une action très risquée et qu'il prend une gamelle, que ça ne va pas bien, eh bien, il a beaucoup plus de chances d'être déposé, que le manager soit renvoyé, que dans une entreprise où vous avez un investisseur institutionnel qui, lui, investit dans l'acquisition d'informations sur le passé de cette personne. Il se dit, mais tiens, mais celui-là, bon, il a quand même fait des choses avant, donc peut-être s'il se plante maintenant, s'il ne réussit pas, eh bien, ce n'est pas grave parce que, quand même, j'ai regardé de près ce qu'il était. Et c'est très intéressant parce qu'on revient à cette idée toujours de l'échec, de permettre à des gens de prendre des actions où il y a de l'échec et qu'ils n'en subissent pas de plein fouet les conséquences. Et ça, c'est un énorme... C'est toujours le problème de l'encouragement au risque. Et vous savez, on a vu déjà... Moi, j'ai parlé quand j'ai parlé du marché du travail la dernière fois et que j'ai dit qu'il faudrait un système de flexi-sécurité pour encourager les gens à chercher du travail, à prendre des risques. Je crois beaucoup qu'on prend beaucoup de risques quand il y a des filets de sécurité. C'est vrai pour les gens, pour les employés, c'est vrai pour les managers. Donc, il ne faut pas qu'on abuse des filets de sécurité. Il y a des parachutes dorés et on connaît tous les abus et ils sont très répréhensibles. Mais c'est intéressant de voir l'idée que pour la prise de risque, on incite à la prise de risque et qu'il faut des filets de sécurité pour la prise de risque. Et c'est une idée générale, mais on la revoit ici. On reviendra là-dessus la prochaine fois, mais c'est une petite graine que je mets en vous pour que simplement, vous ayez ça. Voilà. Alors, je vais vous libérer pour la première, pour la pause dans donnez-moi quelques minutes. Alors, est-ce que je fais la pause maintenant ou est-ce que je fais la pause dans...